J'aime ça quand j'amène la prédication, d'amener des choses de la vie courante. Parce que dans la vie courante, moi, je trouve que le Seigneur nous parle beaucoup dans la vie courante. Voilà quelques mercredis, je vous ai parlé qu'en coupant du bois, Dieu me montrait des affaires pour mon cœur, tout en coupant du bois. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des leçons de mon jardin. Parce que j'ai trouvé que c'était approprié, vu que hier soir, on a coupé des tomates, on a coupé des oignons, on a coupé de la salade. J'ai broyé une partie de la nuit parce que je pensais que j'étais ému pour le message, mais c'est pas que j'ai coupé des oignons. Fait que ce matin, je pensais que de juger approprié de vous parler des leçons de mon jardin. Parce que le jardin, premièrement, deux ou trois raisons pourquoi. Parce que la première raison, c'est parce que dernièrement, quelqu'un que je connais, on va au magasin tous les jours, on parle avec son épouse, puis lorsqu'il y a eu des fortes pluies à Pointe-Négamouc, ils ont tous perdu leur jardin. Puis là, ils me disaient, on pilote dans l'eau, puis on a tous perdu notre jardin, puis je trouvais ça désolant. Puis il dit, je ne veux pas en faire l'année prochaine, puis on essaie de l'encourager. C'est des événements qui arrivent dans la vie. Il y a des choses qui arrivent. Puis aussi, j'écoutais un reportage cette semaine. En Europe, il fait 40 degrés, 45 degrés. Puis j'ai vu un reportage qui disait, « Est-ce la fin des jardins potagers? » Hey, là, moi, je t'inquiète, hein? « Est-ce la fin des jardins potagers? » Ça fait que là, c'est pour ça que aussi, je voulais vous parler des jardins, parce que dans mon jardin, j'ai réfléchi beaucoup dans mon jardin. Et dans mon jardin, Dieu me parle. Hein? Dieu me parle dans mon jardin. Je ne sais pas s'il vous parle dans votre jardin, mais Dieu me parle dans mon jardin. Puis aussi, la Bible parle beaucoup de jardins. Hein? La Bible parle beaucoup de jardins. Puis, on va, premièrement, avant de vous partager cinq raisons, cinq leçons de la vie de mon jardin, on va regarder un petit peu dans la Bible quels sont les passages où il nous parle de jardin. Fait qu'on va regarder ça un petit peu ce matin. La première place où on entend parler de jardin, c'est déjà dans la parole de Dieu, c'est déjà au commencement dans Genèse. Hein? L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que les hommes ont commencé à cultiver et à se garder et à garder le jardin. Hein? Et même si l'homme a désobéi dans le jardin d'Éden, même si l'homme a désobéi et n'a pas été capable de garder ce jardin à cause du péché qui est entré dans le monde, déjà Dieu, dans un autre jardin, préparait Jésus déjà dans un autre jardin. Dans Matthieu 26, 36, ça dit, « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. » Gethsémané, c'est un jardin. Lui, dans cette version-là, il ne marque pas dans un lieu appelé le jardin de Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Assoyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Déjà dans ce jardin de Gethsémané, Dieu préparait son Fils à donner sa vie afin qu'on soit réconcilié avec lui, afin qu'on ait la paix avec Dieu. Amen. L'homme qui avait été chassé du jardin d'Éden à cause du péché, déjà Dieu plaçait Jésus dans un autre jardin afin qu'on soit réconcilié avec lui. Amen. Et je vais vous parler d'un troisième jardin. Un troisième jardin dans Jean 19. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. La résurrection s'est produite dans un autre jardin. dans un autre jardin. Ça fait que vous voyez, c'est extraordinaire. C'est là que Jésus, dans ce jardin-là, a été victorieux. Victorieux, victorieux sur le péché, victorieux sur la mort. Et nous donne la victoire. Amen. Fait que c'est trois jardins extraordinaires dans la parole de Dieu où on voit que déjà les jardins, c'est merveilleux. C'est merveilleux, les jardins. Puis, en plus, Marie, elle, a pensé que Jésus, c'était le jardinier. Hein? Puis souvent, Dieu et Jésus, ils se présentent comme le vigneron. Ils se présentent comme le vigneron dans l'Ancien Testament. Et même dans le Nouveau Testament, ils se présentent comme le vigneron. Et Jésus le sait. Un vigneron, c'est un grand jardinier. Amen. Dieu se présente comme le grand jardinier. Aujourd'hui, pourquoi j'ai appelé ça les leçons de mon jardin? Parce que je me suis aperçu que ce que moi je voulais faire avec mon jardin, je me suis aperçu que Jésus voulait faire la même chose avec moi. Hein? Qu'est-ce que moi je voulais faire avec mon jardin? Jésus voulait faire la même chose avec moi. Oh, j'ai dit, c'est quelque chose, ça. Hein? Premièrement, le soir, j'aime ça sortir dans mon jardin. Le soir, je sors dans mon jardin. Je regarde dans mon jardin si tout va bien. Je regarde dans mon jardin s'il porte du fruit. S'il porte du fruit. S'il y a des zucchinis. Comment que mes tomates poussent. Je regarde ça. Savez-vous à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser dans Genèse 3:8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Je ne me prends pas pour Dieu dans mon jardin. Mais je regarde dans mon jardin s'il porte du fruit. Déjà, Dieu, dans la création, se promenait dans le jardin vers le soir. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il regardait? Il regardait comment ses plantes allaient. Il regardait voir si ses arbres portaient du fruit. Il regardait voir si les hommes allaient bien, l'homme et la femme qu'il avait placés dans le jardin d'Éden. Et il regardait si ça allait bien. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu s'attend à ce que ceux qui lui appartiennent portent du fruit. Amen. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui, ça a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu s'attendait à ce que Adam et Ève portent du fruit de la droiture et de la justice, comme il va dire à son peuple d'Israël. Déjà dans Isaïe 5, le verset 1 à 2, « Mon bien-aimé avait une vigne. » C'est qui ça, mon bien-aimé? C'est Dieu. C'est un chant chanté à Dieu. Dieu avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, il ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis, il espérait qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit des mauvais. Fait que déjà, quand Dieu a choisi le peuple d'Israël, il l'a planté sur un coteau fertile et il lui a donné tout ce qui était nécessaire afin qu'elle porte du fruit. C'est quelque chose, hein? Tout ce qui était nécessaire afin qu'elle porte du fruit. Et quel fruit? Le verset 7, ça dit, « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. » Il avait espéré de la droiture. Les fruits de la droiture, c'est les fruits dans le cœur. La droiture, le cœur. Et voici du saint verset, « Et il aurait espéré de la justice. » La justice, c'est les fruits extérieurs. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres? La veuve et l'orphelin, le pauvre, le misérable. Ça, c'est les fruits de la justice. Et voici des cris de détresse. Ça fait que déjà, dans le jardin d'Éden, Dieu espérait que sa création allait porter du fruit. Lorsqu'il a planté le peuple d'Israël, il espérait que Israël porte du fruit. Et dans le Nouveau Testament, mais même si le peuple d'Israël n'a pas porté du fruit, même si ça dit « ils m'ont oublié » et « des jours sans nombre, ils m'ont oublié », ça dit ça dans Amos, Dieu est miséricordieux. Amen. Il est miséricordieux et il va même leur dire dans Amos 9:4, « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et ils les habiteront. Ils planteront encore des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. » Quel Dieu miséricordieux. Amen. Parce qu'il espère que, encore une fois, lorsque Dieu va les restaurer, qu'ils portent du fruit de la droiture et de la justice. Amen. Et dans le Nouveau Testament, lorsqu'on regarde ça, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Il veut qu'on porte du fruit. Amen. Dans Jean 15:8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et il va continuer dans Jean, « Je suis le cep, le Père est le vigneron, je suis le cep, dit Jésus, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Amen. Les premiers temps, j'avais mon jardin. J'osais jamais couper une branche de tomate, moi, ou une branche de zucchini. Hein. Je te laissais pousser ça, tu croches. Puis, j'avais assez peur de tout le casser, puis le briser, puis que ça ne pousse plus jamais. Mais à long, je me suis aperçu qu'il y a des affaires qu'il faut qu'on enlève. Hein? Puis quand je lis ça ici dans le verset 2, le Seigneur il dit qu'il va nous émonder aussi. Il veut enlever les affaires dans notre vie qui n'est pas bon pour nous autres. Hein? Mais si Dieu, moi, je me dis, bien, si Dieu le fait, je peux le faire avec mes tomates et avec mes zucchini. Hein? Mais le Seigneur, il veut le faire. Il veut enlever ce qui n'est pas de lui. Ça fait que le premier point que je me suis aperçu dans mon jardin. Lorsque je me promène dans mon jardin, je regarde si mon jardin porte du fruit. Tous les soirs, je me promène de même. Je regarde dans mon jardin, voir s'il porte du fruit, si mes tomates vont bien, si mes zucchini poussent. Mais je me suis aperçu que le Seigneur, il veut aussi que moi, je porte du fruit dans ma vie. Du fruit de la droiture, ça c'est dans le cœur, et du fruit de la justice, qui est à l'extérieur. Amen. Le deuxième point que je me suis aperçu, c'est que dans un jardin, on est dépendant de Dieu pour le soleil, pour la pluie, pour la croissance. On est dépendant qu'il n'y ait pas trop de mauvaises intempéries, qu'il n'y ait pas de grêle, qu'il n'y ait pas trop de canicule. Moi, des fois, je dis à ma femme, trois jours, là, j'arrête pas de chauffer le soleil, il faudrait qu'il y ait un peu d'ombre, puis, hein, je chiale après Dieu. Puis là, je m'ai aperçu qu'il faut être on est dépendant de Dieu dans un jardin. Puis même si on apprend des petits trucs de jardinage, puis même si on lit des livres, même avec les années, si on s'améliore, si Dieu n'envoie pas une bonne température ou n'envoie pas les éléments nécessaires, on ne peut rien faire. Comme on a lu tantôt dans Jean, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Savez-vous où ça m'a fait? Parce que on ne peut rien faire parce que pour la croissance, la Bible a dit « C'est Dieu qui fait croître. » Puis ça me faisait penser toujours à un verset dans 1 Corinthiens 3 qui dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Mais Dieu a fait croître. La croissance, c'est Dieu. Amen. La croissance, c'est Dieu. Et même, je regardais un autre verset qui me parle encore plus. Ça dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. C'est quoi ça, le champ de Dieu? Des fois, ça passe vite dans les commentaires, puis personne, on dirait que je regarde des fois, puis frères et sœurs, on est le champ de Dieu. On est en train d'être cultivé par Dieu. On est en train d'être arrosé par son esprit. Et à notre tour, on doit cultiver dans ce champ, et on doit arroser nous aussi, et on doit semer nous aussi dans ce champ. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu, on est le champ de Dieu. On est le champ de Dieu. Ça m'a fait penser à une histoire. Quand on était jeune, on avait fait, moi et Pauline, on s'occupait d'un club de jeunes, puis on a fait une pièce de théâtre avec 75-80 enfants. Hein? Puis c'est du stock, ça. Dans ce temps-là, j'avais autant de patience que Moïse. Puis il y avait des huttes sur l'estrade, puis il y avait des affaires, puis on avait fait des... Ça s'appelait « Les ananas de Dieu ». Puis c'est un livre qui a été écrit, puis il se vend encore, j'ai regardé, il se vend encore. Puis « Les ananas de Dieu », c'est un missionnaire qui s'en va en mission. Puis lui, il aimait ça, les ananas. Ça fait que là, il aimait les ananas, mais hein, un ananas, ça prend 2 ans quasiment à avoir un fruit. Puis en plus, ça n'a pas bien de fruits sur un ananas, c'est un ananas. Hein? Ça fait qu'il faut t'en sème beaucoup des ananas pour en manger. Fait que là, lui, il arrive en mission, puis il s'aperçoit que c'est le pays propice aux ananas. Fait que là, il dit, je ne peux pas planter tout ça tout seul, je vais engager la tribu qui n'est pas loin, puis je vais les payer, puis ils vont planter mes ananas. Ça fait que là, la tribu plante les ananas, il s'arrange avec le chef, il les paye. Mais là, au bout de 2 ans, quand les ananas commencent à mûrir, oh, un ananas disparaît. Oh, un autre ananas disparaît. Un autre ananas disparaît. Il s'aperçoit que ces ananas disparaissaient. Il va voir le chef, il dit, « Chef, vous volez mes ananas? » Le chef, il dit, « Non, on ne vole pas vos ananas. » Il dit, « Nous, dans notre culture, ce qu'on plante, on le mange. » Il dit, « Les ananas sont à nous. » Il dit, « Vous nous avez payé pour planter, mais nous, on les a plantés, mais ce qu'on plante, on le mange. » Là, le missionnaire a insulté ben raide. Il dit, « Non, c'est mes ananas. Je vous ai payé pour que vous les plantiez, puis c'est mes ananas. » Mais ça a continué comme ça. Puis à chaque fois que les ananas mûrissaient, les ananas disparaissaient. Ça fait qu'une journée, le missionnaire, il s'en va dans un séminaire. Puis dans le séminaire, ça dit, « Faut laisser nos droits à Dieu. » Ce qu'on essaie de garder souvent, on le perd. Puis hein, ça le dit, ceux qui veulent gagner sa vie, ils la perdront. Si on la donne, on va la gagner. Ça fait que là, lorsqu'il est revenu du séminaire, il ne s'occupe plus des ananas, il dit, « Je les donne à Dieu. » OK. Dieu, je te donne mes ananas. Ça fait que là, les ananas disparaissaient, puis il ne s'en occupait plus des ananas. Il était en paix avec Dieu. Fait que là, le chef de la tribu, il va voir le missionnaire et dit, « Vous chiolez plus après nous lorsqu'on prend les ananas? » Ben, il dit non. Il dit, « C'est les ananas de Dieu maintenant. » Là, le chef de la tribu, il s'envoie tout son genre. À partir de cette journée-là, il n'y a plus personne qui prenait des ananas. Là, le missionnaire, il va, tout d'un coup, il voit le chef, il dit, « Chef, vous ne prenez plus mes ananas? » Le chef, il dit, « Ben non. » Il dit, « On ne prendra pas les affaires qui appartiennent à Dieu. » Ça fait que là, finalement, le missionnaire, il dit au chef, « Chef, il dit, je pense que Dieu veut qu'on mange ensemble les ananas. Hein? » Mais il avait compris une chose. Tout ce qu'on essaie de garder, il faut donner les choses à Dieu. C'est Dieu qui fait croire. Et cette pièce de théâtre-là, ça montrait beaucoup de choses sur céder nos droits à Dieu. La croissance, comme ça dit dans ça ici, la croissance ne nous appartient pas. La croissance, elle appartient à Dieu. Amen. On est dépendant de Dieu pour la croissance. On peut semer, on peut arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. On est dépendant. On est dépendant. Le troisième point, je me suis aperçu aussi que dans un jardin, on ne peut pas mettre les légumes où on veut. Quand, il y a 2 ans, j'ai commencé à faire mon jardin ici, là, je lisais sur Internet, les tomates, ça ne va pas avec les patates. Les haricots, ça ne va pas avec l'ail et les oignons. Il faut t'éloigner les choux des radis. Les carottes, ils n'aiment pas les betteraves. Et puis, ça ne finissait plus, la liste. Et là, moi j'étais chez nous, j'ai dit, hey, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là, jusqu'à on va mettre les légumes. Hein? Fait que là, je regardais tout ça, quel bon compagnonnage, quel mauvais compagnonnage. Là, je regardais tout ça, je dis, hey, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Là, j'ai commencé à réaliser que c'est pareil dans le champ de Dieu. C'est pareil dans le champ de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, le Seigneur, il donne une image du corps. Hein? Et il dit, dans le corps, il y a des mains. Dans le corps, il y a des pieds. Dans le corps, il y a des yeux. Dans le corps, il y a des oreilles. Et une oreille ne peut pas dire que je suis la bouche. Et une main ne peut pas dire que je suis le pied. Mais ce que j'aime dans le passage de 1 Corinthiens 12, c'est le mot que Dieu dit. Ça dit au verset 18, « Maintenant, Dieu a placé. Dieu a placé chacun des membres comme il l'a voulu. » Amen. Et c'est pareil spirituellement parlant. Dieu place chacun des membres comme il le veut. Amen. C'est à nous, frères et sœurs, de chercher avec l'aide de Dieu où est notre place. L'autre jour, Carl, il a fait un petit message sur Internet, puis j'ai aimé ça. Il a dit, venez à l'église, vous avez besoin de Jésus. Il dit, venez à l'église, vous ne vous adonnerez pas avec tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui est pareil, mais il dit, vous allez trouver certainement quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir vous adonner. Et c'est vrai. Dans l'église, on n'est pas toutes faites pareilles, on est tous différents. Et dans 1 Corinthiens 12, ça parle aussi. Il y a différentes diversités de dons, diversité de ministères, diversité de moi, je ne me souviens plus. de ministères. Mais un seul Dieu qui fait croître toutes choses. Amen. Un seul Dieu qui place toutes choses. Trouver notre place. Trouver notre place. Trouver notre place. Puis j'ai aimé ça, ce mot-là, Dieu a placé. Et j'aime aussi, dans Éphésiens 14, quand Dieu dit, je ne sais pas si je l'ai marqué, et il a donné. Il a donné. C'est Dieu qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres et les autres et les autres. Dieu a donné. Il faut trouver notre place, mais Dieu donne. Dieu donne. Le quatrième point. Dans mon jardin, j'ai fait une clôture autour de mon jardin. Hein? Parce que les écureuils, le chien du voisin, les ratons laveurs. Hein? Et au début de l'année, le chien venait piétiner ma plate-bande. J'aimais pas ça. J'ai fait une clôture. J'ai fait une clôture. Mais ça m'a fait penser à un verset dans la parole de Dieu, dans le Cantique des Cantiques, qui dit, « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la vigne, les petits renards rentraient dans la vigne, puis allaient gruger tranquillement les branches, puis ça paraît pas. Apparaît pas. Mais à force des gruger, bien, tranquillement, il attaque la sève de la vigne, puis tranquillement, la vigne, elle meurt. La vigne, elle meurt. Puis qu'est-ce que ça me fait penser? Moi, j'ai mis une clôture autour de mon jardin pour protéger mon jardin. Mais spirituellement parlant, frères et sœurs, on doit mettre une clôture autour de notre cœur afin de protéger notre cœur des petits renards. Et qu'est-ce que c'est ça, les petits renards? Les petits renards, c'est les petites habitudes, les petits péchés cachés, les petites choses qui viennent dans nos vies, qui vont commencer à gruger notre cœur, qui vont commencer à gruger notre vie spirituelle, et qui tranquillement peut attaquer notre vie spirituelle et qui peut nous faire déchoir. Amen. Les petits renards. Les petits renards. Ne pas les laisser s'installer. Le Proverbe 4:13, ça dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Une clôture autour de notre cœur. Le point le plus important dans le jardin, c'est l'arrosage. Hein? C'est ça mon cinquième point, l'arrosage. Là, des fois, je regardais sur Internet, il y en a qui disaient, « Bien, vous êtes bien mieux d'arroser le matin. » Il y en a d'autres qui disaient, « Bien non, vous êtes bien mieux d'arroser le soir. » Il y en a d'autres qui disaient, « Quand tu arroses, il faut t'arroser beaucoup. » Mais il y en a d'autres qui disaient, « Quand tu arroses, il ne faut pas t'arroser trop. » Moi, quand ma femme arrose, là, je me tourne d'abord parce qu'elle est noyée. J'ai dit souvent, « Pauline, moins d'eau, moins d'eau. » Puis moi, ben, elle me dit, « Bien, toi, t'en mets pas assez. » Il faut apprendre dans un jardin à bien arroser, régulièrement, abondamment. À cette année, j'essaie d'arroser mes tomates fixes, à tous les 5 jours, mes tomates. J'essaie d'être régulier, apprendre à arroser. Ça me faisait penser à un verset dans Jérémie qui dit, « Ils viendront et ils pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le biais, le mou, l'huile, les brebis et le bœuf. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Dieu promet à son peuple que lorsqu'il va les restaurer, ils seront comme un jardin arrosé. » Amen! Comme un jardin arrosé. Frères et sœurs, on a besoin d'être arrosé par le Seigneur régulièrement. Amen. Si moi, j'arrose à tous les matins, parce que dans la serre, il faut que j'y aille à tous les matins pour arroser mes piments. Parce que les autres, ils ne peuvent pas mouiller dessus, ils sont dans la serre. Fait qu'à tous les matins, je vais arroser mes piments, puis ils ont besoin de bien de la chaleur, puis bien des... Fait que je les arrose à tous les matins. Mais là, est-ce que je me laisse arroser par le Seigneur à tous les matins? Par sa parole, par son esprit? Est-ce que je me laisse arroser? Je suis fidèle avec mon jardin, mais est-ce que je suis fidèle avec moi-même? Frères et sœurs, laissons-nous arroser. Laissons-nous arroser. Ésaïe 58, 11, ça dit, « L'Éternel sera toujours ton guide. » Ça, il dit ça, ce verset-là, suite au verset précédent qui dit, « Lorsque tu aideras les gens, lorsque tu feras du bien, lorsque tu seras en train de servir, autrement dit, « L'Éternel sera ton guide, il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. » Amen. Est-ce qu'on a besoin d'être un jardin arrosé? Amen. Hey, on a besoin que Dieu nous arrose régulièrement. Abondamment aussi. On a besoin d'être arrosé parce que si on veut arroser d'autres personnes au lieu de nous, il faut que Dieu nous arrose d'abord. Parce que, comme on a dit tantôt, nous sommes le champ de Dieu. Et dans le champ de Dieu, on a besoin d'être arrosé et on a besoin ensuite d'arroser ceux qui sont autour de nous afin qu'ils puissent grandir aussi. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Frères et sœurs, regarder dans mon jardin, me donner un regard spirituel sur moi-même. Un regard spirituel sur dans mon jardin, je regarde si mon jardin porte du fruit, mais le Seigneur, il veut que je porte du fruit. Il veut que je porte du fruit de droiture dans mon cœur et de justice vers l'extérieur pour sa gloire. Dans mon jardin, Tout dépend de Dieu pour la température, pour le climat, pour la croissance. Et dans ma vie spirituelle, tout doit dépendre de Dieu pour ma croissance, pour laisser le Seigneur me placer, laisser le Seigneur faire son œuvre dans ma vie. Dans mon jardin, on ne peut pas placer les légumes où on veut, mais dans la vie spirituelle, on ne peut pas se placer où on veut. On ne peut pas se placer dans le champ de Dieu où on veut. Il faut laisser Dieu nous placer. Il faut laisser Dieu nous placer. Et lorsqu'on fait ça, le Seigneur, il travaille mieux que nous-mêmes. Il faut laisser Dieu nous placer. Dans mon jardin, j'ai mis une clôture. Puis en dedans de la clôture, il y a des affaires d'un pouce. Là, la broche à poule, j'ai mis, là. Bien, moi, j'ai assez peur des écureuils puis des affaires. Mais dans ma vie spirituelle, il faut que j'aie peur aussi des petits renards. Il faut que j'aie peur des mauvaises habitudes, des péchés cachés, des choses qui peuvent venir tranquillement s'installer dans nos cœurs et dans nos vies, gruger tranquillement notre vie spirituelle, puis tranquillement nous enlever. Puis cinquièmement, dans mon jardin, il y a besoin d'être arrosé régulièrement, suffisamment, abondamment. Et dans ma vie, j'ai besoin du Seigneur d'être arrosé abondamment, suffisamment, régulièrement, par sa parole, par son Saint-Esprit, par les frères et les sœurs, la communion fraternelle. On a besoin de s'arroser régulièrement. Amen. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Frères et sœurs, c'est ma prière pour chacun de nous ce matin, qu'on puisse porter du fruit, dépendre de Dieu, être là où Dieu nous veut, faire attention à notre cœur et que Dieu puisse nous arroser spirituellement pour sa gloire et son honneur. Amen. On va prier ensemble et si les musiciens veulent s'avancer, on va terminer ça avec un chant. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu es grand, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Puisses-tu bénir, Seigneur. Puisses-tu faire un œuvre. Puisses-tu parler à nos cœurs, Seigneur, à travers ta parole. Parce que c'est ta parole, Seigneur, qui brise le joug. C'est ta parole qui nous amène plus loin avec toi. Ton esprit, Seigneur, fais une œuvre en chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur.